Vous m'en direz des nouvelles.
Marjorie Bertin,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. L'impressionnisme, l'un des mouvements les plus célèbres de la peinture. Des tableaux dans lesquels règne l'impression de l'instant mobile et de la lumière, à travers les effets qu'elle produit sur les personnes, la nature ou les villes qui s'industrialisent. Un courant qui apparaît en 1874, lorsque ses inventeurs, un groupe de 31 artistes, audacieux et révoltés contre le monde de l'art, créent leur première exposition collective. Certains peintres comme Claude Monet, Berthe Morisot ou encore Paul Cézanne deviendront mondialement connus. Au cœur de Paris, le musée d'Orsay célèbre cet anniversaire à travers une nouvelle exposition. Près de 200 œuvres, dont des sculptures et une expérience en réalité virtuelle, nous immergent de façon lumineuse au cœur de ces avant-gardes. Sylvie Patry, commissaire de cette exposition et ancienne directrice des collections du musée d'Orsay, est avec nous. Paris 1874, inventer l'impressionnisme, nous fait effleurer le passé pour découvrir combien il est présent. C'est jusqu'au 14 juillet au musée d'Orsay et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Sylvie Patry.
Bonjour.
Alors merci d'être avec nous en direct aujourd'hui, d'autant que c'est un grand jour, le grand jour pour lequel vous avez tant œuvré. L'exposition vient d'ouvrir aujourd'hui. Alors on associe souvent le musée d'Orsay à l'impressionnisme, car il abrite la plus grande collection de tableaux aux impressionnistes du monde. Alors l'impressionnisme est né officiellement donc il y a 150 ans, le 15 avril 1874, par la première exposition collective de 31 peintres. Parmi eux, il y en a 7 qui vont devenir très célèbres, Degas, Morisot, Monet, Sisley, Renoir, Cézanne, Pissarro, des artistes qui ont fondé la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Et alors en fait, ils sont fédérés contre le salon, un autre espace d'exposition qui validait, comme on dirait aujourd'hui, en fait, qui pouvait ou ne pas être officiellement peintre. C'était un endroit très déterminant. Qu'est-ce que c'était que ce salon ?
Alors le salon, c'est une exposition qui avait lieu à ce moment-là tous les ans, mais parfois elle a eu lieu tous les deux ans, ça dépendait un petit peu du moment, mais à ce moment-là tous les ans, ça a été fondé par Louis XIV, donc c'est vraiment très ancien. Et en fait, chaque année, donc il y avait un jury qui se réunissait et qui choisissait les œuvres qui seraient acceptées et les œuvres qui seraient refusées. Et en fait, à ce moment-là, le monde artistique, la vie artistique est quand même très centralisée autour de ce salon. C'est au salon que viennent les journalistes, c'est au salon que viennent les collectionneurs, et c'est aussi au salon que ce qu'on appelle l'administration des beaux-arts, c'est-à-dire les musées, ou alors ceux en charge de l'art officiel qui font des commandes pour les artistes, c'est là qu'ils se rendent pour repérer les artistes. Donc c'est vraiment le lieu où se font et défont les carrières, si je puis dire, et où chaque artiste rêve de se faire remarquer.
Et alors, comment est-ce qu'ils étaient choisis, les artistes qui avaient le droit d'être dans le salon ? Parce que quand on fait l'expérience en réalité virtuelle, il y a une scène terrible où on voit Renoir qui se fait passer pour un ami de Renoir et qui vient dire « Est-ce que Monsieur Renoir sera admis au salon cette année ?»« Non, malheureusement, cher ami, il n'en sera pas, ça semble fou aujourd'hui. » Comment ? Sur quels critères on était au salon ? Est-ce que c'était payant d'abord ?
Alors pour visiter, c'était payant, pas pour participer. Mais alors les critères justement, ils sont un petit peu flous. Évidemment, ces membres du jury, ce sont des artistes, que des hommes évidemment. Hein, je le précise, puisqu'à ce moment-là, les femmes n'ont pas accès à toutes ces responsabilités institutionnelles, donc elles n'ont pas de pouvoir dans le monde de l'art. Donc ce sont plutôt des académiciens, des gens qui ont été formés de façon traditionnelle. Donc ils ont plutôt un goût conventionnel. Mais de temps en temps, il laisse passer, si je puis dire, des œuvres un peu plus novatrices. Et ce qui va amener les futurs impressionnistes à organiser leur propre exposition en 1874, c'est pas qu'ils sont tout le temps refusés, mais c'est qu'ils sont de temps en temps refusés, de temps en temps acceptés. Donc en fait, il y a une part d'arbitraire, un sentiment d'injustice, et puis la volonté de leur part de prendre en main leur carrière et de décider par eux-mêmes du moment où ils sont exposés et ce qu'ils exposent. Parce qu'en fait, au salon, il y a des milliers d'œuvres qui sont exposés chaque année.
Ah oui, c'est énorme.
C'est énorme. C'est vraiment une grande foire. Imaginez les grandes foires d'art contemporain d'aujourd'hui. C'est un petit peu ça, à part que c'était pas organisé par les galeries. Il y a des milliers d'œuvres qui sont. Les tableaux sont accrochés par ordre alphabétique d'artistes. Donc là aussi, une part d'arbitraire en fonction des formats. Donc non seulement il faut être accepté, mais ensuite il faut être bien montré. Parce que parfois, on est montré, comme ils disent, au ciel, c'est-à-dire tout en haut. Et ce qui fait que les œuvres ne sont pas très, très visibles. Et c'est ce qui explique aussi qu'au XIXe siècle, si vous allez dans les musées, que ce soit à Paris, dans le monde ou dans les régions, dans les grandes villes françaises, vous avez beaucoup de grands formats au XIXe siècle. Parce qu'en fait, les artistes, ils veulent se faire remarquer.
Ah oui, donc c'est un peu qui est-ce qui aura la plus grosse toile. Et vous évoquiez à l'instant le fait que c'était interdit aux femmes. Sous quel critère? Parce que de tous ces impressionnistes-là en 1874, on en parlera tout à l'heure, il y a Berthe Morisot évidemment, qui est la seule femme d'ailleurs. Est-ce qu'elle avait essayé de faire partie du salon, par exemple?
Alors, ce qui était... les femmes pouvaient exposer au salon, mais elles n'étaient pas membres du jury. Parce que l'école des beaux-arts leur était interdite, toute la formation académique qui permettait de devenir quelque sorte un ponte, hein, quelqu'un qui influence et qui fait partie de ce jury, ça, c'était pas possible. En revanche, ce qu'on observe au 19e, c'est que le nombre de femmes qui participent au salon comme artistes est de plus en plus nombreux, mais souvent dans des disciplines jugées un petit peu mineures, c'est-à-dire les arts décoratifs, les aquarelles, le pastel, pas la grande sculpture monumentale, par exemple, où il y a très peu de femmes. Donc Berthe Morisot, elle a commencé à exposer au salon au milieu des années 1860, et d'ailleurs elle a été remarquée par des journalistes, donc elle commençait à faire son chemin.
Et puis évidemment, il va y avoir cette belle soirée en 1874. Exposition, votre exposition, si je puis dire, Sylvie Patry, au musée d'Orsay, elle commence par une immersion dans l'ancien atelier de Nadar. Alors, c'est l'un des pionniers de la photographie. Le soir de l'ouverture de la première exposition des impressionnistes au 35 boulevard des Capucines, à deux pas de l'Opéra Garnier, qui vient d'être construit, 200 peintures sont exposées, bien exposées, sur des murs tapissés de laine, brun rouge, dans un immeuble cossu, par ces 31 peintres en rupture avec leur mouvement. Est-ce qu'on a une idée de comment était l'ambiance ce soir-là? Ça devait être très joyeux.
Alors, on a très peu d'informations, en fait, sur la façon dont ça s'est passé exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'il pleuvait ce soir-là, il a plu. On a regardé les bulletins météo, ça c'est très pratique maintenant, grâce à Internet. Donc c'était une soirée d'avril pluvieuse. J'imagine qu'il y avait quand même beaucoup d'excitation de la part des artistes. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ils étaient vraiment dans ce quartier qui est vraiment le symbole de ce Paris qui se reconstruit, ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier le Paris des Grand boulevard, où il y a beaucoup de théâtres, des cafés, des hôtels luxueux. C'est vraiment le cœur du tourisme, du luxe, de la finance. Et les impressionnistes, ils vont décider d'ouvrir leur exposition le soir, ce qui est une première en France. On le faisait déjà un petit peu en Angleterre, maintenant on est habitué dans les grandes villes à ce qui est des nocturnes, comme on dit aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ça traduit de leur part une volonté de s'adapter au quartier, à cette société qui bouge, et d'essayer d'attirer une nouvelle clientèle. Donc ça, c'est intéressant. Donc l'ambiance, j'imagine, elle devait être beaucoup d'excitation, beaucoup d'attente aussi, parce que c'était une première. Il y avait d'autres expositions indépendantes, autonomes, en dehors du salon. Mais là, c'est la première fois que ce sont des artistes qui se rassemblent même sans marchands, sans personne pour les aider et qui vraiment prennent leur destin en main.
Et alors, est-ce qu'ils ont construit des critères, ces 31 artistes, pour cette soirée ou pas? Est-ce que c'était des affinités, des correspondances dans la façon de peindre? Est-ce que c'était des affinités amoureuses, intellectuelles, amicales? Qu'est-ce qui les rassemble?
Alors, ce qui les rassemble, en fait, c'est plutôt une conjonction de différents cercles, de différents réseaux, de différentes bandes, en quelque sorte. En tout cas, parmi ces 31 artistes qui ont exposé en 1874, tous n'étaient pas impressionnistes. Je dirais même que la majorité n'était pas impressionniste. Et en fait, pour faire partie de cette société anonyme, cette coopérative qui a organisé l'exposition, il fallait cotiser. Les artistes cotisent et puis avec l'argent qu'ils ont rassemblé, ils louent donc cet atelier, les anciens ateliers de Nadar. Il a déménagé depuis 2 ans à ce moment-là. Et puis il tente des murs, ils arrangent la décoration, si je puis dire, pour organiser l'exposition. Et il y a plusieurs cercles. Il y a des amis, il y a la bande à Degas, il y a des peintres qui sont plutôt des amis de Pissarro. C'est beaucoup Degas, Monet, Pissarro qui sont à la manœuvre, qui ne sont pas toujours d'accord, d'ailleurs, sur la façon de procéder. Et par exemple, Berthe Morisot, elle est invitée par Degas, qui écrit à la mère de Berthe Morisot, parce que bon, c'est une jeune fille donc, qui n'est pas encore mariée. Donc à ce moment-là, un peintre comme ça ne peut pas s'adresser directement à elle. Il passe par le truchement de la mère de Berthe Morisot.
Et alors, est-ce qu'il y avait aussi des idées communes? Parce que je me souviens que dans l'exposition, on voit à un moment donné un tableau de classe, je crois, qui est le doyen des impressionnistes. Arrêtez-moi si je me trompe. Il a peint un tableau qui s'appelle Le Pêcheur et il parle de la liberté. Et il dit, moi j'ai rejoint, enfin je le dis très mal, mais vous le citez, qui dit, moi j'ai rejoint ce groupe-là parce que il est convaincu qu'il faut être libre en peinture. Et moi, c'est ce que je veux. Il n'y a que comme ça que la peinture continuera d'avancer.
Absolument. C'est un tableau c'est un grand tableau, un grand portrait assez monumental d'un pêcheur, donc une personne humble à laquelle il a accordé toute son attention. C'est un tableau qui nous est prêté par le musée de Honfleur. Et Cals, il ne peint pas comme un impressionniste, au sens où ce tableau est assez sombre dans ses couleurs, même si quand on s'approche, on voit des touches de bleu, des touches de vert, etc. Mais c'est quelqu'un qui croit effectivement en cette liberté nécessaire aux artistes, à la création. Et c'est ça qui les fédère, en fait. C'est moins un programme esthétique que la volonté d'être libre et indépendant.
Et alors justement, parmi ces premières peintures qu'on découvre juste avant classe, sur la gauche, il y a la Parisienne et puis surtout, une toile que je trouve particulièrement merveilleuse, c'est la Danseuse, donc qui était exposée en 1874, parce qu'on pénètre comme ça dans l'exposition, on y est comme si on y était en vrai. Et donc il y a cette Danseuse, c'est une grande peinture à l'huile, lumineuse, sereine, d'Auguste Renoir. Alors on y voit une jeune fille brune, grandeur nature, en tutu blanc, bouffant, avec quelques rubans bleus. Son corsage est échancré, on voit ses épaules, ses bras nus, ses jambes aussi, bien, bien en chair, devant un fond vert d'eau. La peinture, elle est très douce. On a l'impression, Sylvie Patry, de la grâce, du mouvement. Le geste aussi semble estompé, c'est comme si ça se fondait un peu avec le fond. En quoi cette peinture que Baptiste Antoine a eu la gentillesse de vous imprimer est-elle typique de l'impressionnisme ?
Ça, c'est effectivement, vous faites référence à un merveilleux tableau de Renoir qui nous est prêté par la National Gallery de Washington, qui est le partenaire hein, de cette exposition, qui sera présentée ensuite aux États-Unis. Donc, c'est une œuvre qu'on voit très rarement en France. Et je dirais que c'est un tableau impressionniste, déjà par son sujet, parce qu'en fait, ce thème comme ça de cette jeune danseuse, c'est un sujet qui est éminemment moderne. Hein. On est vraiment au 19e siècle, c'est le moment du plein essor du ballet. On codifie la danse classique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière cette jeune fille, cet enfant encore, et qui n'a pas échappé aux contemporains. C'est un moment où les danseuses, ou ce monde hein, des petits rats de l'opéra, comme on les appelle, sont des jeunes filles souvent très modestes, qui sont protégée, comme on disait à l'époque, par des hommes plus âgés. Mmh. Donc en fait, ce qu'il nous montre Renoir, c'est à la fois cette jeune danseuse qui est gracieuse, effectivement, qui est presque en quatrième position hein, quand on regarde ses pieds. Mais c'est aussi des jeunes filles qui sont parfois sous l'emprise d'hommes qui sont à la frontière de la prostitution. Et ça participe à l'impressionnisme, au sens où c'est vraiment, ça parle de la société de l'époque. Et nous, on le perçoit moins parce que c'est des repères qu'on a perdus. Mmh. Mais quand on lit la presse de l'époque, c'est tout à fait clair. Et puis, c'est évidemment un tableau impressionniste parce que c'est un tableau effectivement avec une facture très esquissée, très légère, des jeux de couleurs très étonnants quand on regarde, c'est finalement une symphonie de bleu, de vert et de jaune, c'est ce jeune modèle surgit comme ça derrière un fond très vibrant et ça c'est très Renoir en fait, faire vibrer les couleurs, faire vibrer la matière et finalement donner beaucoup de poésie et une grande dignité à cette jeune fille.
Et alors il y a cette tension entre la mélancolie de la jeune fille d'un côté qui est exprimée par ce regard et de l'autre la légèreté de la grâce, du mouvement, de la jeunesse peut-être aussi. Ce geste comme ça, aérien, léger, presque vaporeux, on le retrouve dans de très nombreuses toiles chez les impressionnistes. Par quoi est-ce qu'il est influencé? D'où est-ce qu'il vient, cette volonté de légèreté, de nuage?
Alors, sans doute, parce que effectivement, dans l'impressionnisme, il y a impression. Et donc il y a cette volonté chez la plupart des artistes impressionnistes, c'est pas vrai pour tous mais pour la plupart, pour Renoir, pour Monet, pour Morisot notamment, d'être dans cette fugacité, dans cette fragilité en fait du moment, ce moment qui, Berthe Morisot disait que elle aurait réussi son œuvre selon elle si à partir du moment où elle réussit à fixer quelque chose de ce qui passe. Et donc je pense que cette légèreté, elle est liée à ça, ce caractère très transitoire, très, très fugace, que l'on essaie de fixer pour toujours et à jamais sur la toile.
Alors Marion Rampal et Bertrand Belin essaient aussi de fixer des instants fugaces. Écoutez.
Ses bas gris dans ses eaux bleues, m'ont s'accroché à l'arbre, ma vie m'a prise, je suis au fait, presque à ton bras, deux pas pour le bas, trois sur le côté, passer lentement, sous le ciel qui chante. Je sais habiller sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche. 12 heures puis le reste, en nous ça tourne à travers le temps. Joli chien qui tôt matin me mord le bras, des yeux les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon ombrelle. Ça n'était qu'un doux rêve sans faire.
Beau dimanche de Marion Rampal avec la complicité de Bertrand Belin dans VMDN. Un morceau à retrouver sur la playlist de RFI. Un morceau aussi aérien et doux que ces tableaux impressionnistes dont nous parlons, Sylvie Patry. Comment les peintres font-ils pour jouer, on a l'impression si facilement, avec les couleurs pour arriver à une telle impression de légèreté et de mouvement dans la grâce d'une danseuse ou lorsqu'ils peignent comme Monet un champ de coquelicots en été? Ils adorent peindre les fleurs, les impressionnistes aussi. Il y a beaucoup de fleurs dans cette exposition. On a presque l'impression, quand ils peignent ces coquelicots, quand on est devant eux, de les voir bouger, de sentir la chaleur de l'été. Comment est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'on a une idée?
Alors,
on appuie moins avec le pinceau?
Alors ça dépend effectivement, et c'est pour ça que c'est vraiment important de venir voir les œuvres en vrai, si je puis dire, parce que ça on peut pas vraiment le voir sur une reproduction, quelle que soit sa qualité. C'est que bon, déjà les impressionnistes, ils vont sortir de l'atelier, ils vont peindre en extérieur, et du coup ils vont parfois s'obliger en quelque sorte, c'est presque une performance, ils vont s'obliger à peindre vite pour essayer de s'accorder à cet instant qu'ils veulent fixer. et tant est si bien que finalement il ne s'embarrasse pas de détails. Il ne recherche pas le détail exact, etc. Et vous parliez des coquelicots de Monet, donc c'est un merveilleux tableau qui est conservé au musée d'Orsay et qui a été présenté dans cette exposition de 1874. Donc on le présente dans l'exposition. On y voit un champ. Et sur la partie gauche du champ, et deux mères avec leur fils qui marchent comme ça dans ce champ. On est à Argenteuil, aux environs de Paris. Et la partie gauche du tableau, c'est un coteau d'herbe qui est parsemé de rouge, de coquelicots. Et si vous approchez, vous voyez que ces coquelicots, en fait, sont des taches de peinture pure. Il a juste posé des taches d'un pinceau parfois léger, donc parfois il y a très peu de matière, comme on dit dans notre jargon, très peu de peinture. Et parfois, il y a vraiment une épaisseur de peinture. Et en fait, c'est une maîtrise incroyable de la part de Monet. C'est une virtuosité, une maîtrise de ses moyens. Et quand on s'éloigne, on voit des coquelicots. Voilà. Et donc, il peigne par tâche, il peigne par touche. Et c'est ça, d'ailleurs, qui va choquer le public de l'époque, parce que les gens qui voient ça, ils vont se dire, mais pas très fini ce tableau, il aurait pu faire un effort. En général, ça ce qu'il nous montre, c'est une esquisse. Et ça, c'est une partie du scandale, si je puis dire, de l'impressionnisme.
Oui, parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à voir ça. Alors après, c'est pas pour faire, c'est pas pour montrer le contre-exemple, si je puis dire, mais quand on est dans l'exposition, quand même, on baigne au milieu de ces peintures impressionnistes, et après, pouf, on bascule dans ce qui était montré au salon. Alors c'est très rigolo, parce qu'il y a une citation de Zola qui dit, mais ça n'en finit pas, on a l'impression qu'il va y avoir des tableaux qui vont partir de Paris jusqu'en Amérique, parce qu'effectivement, ces tableaux sont très, très grands. Ils sont très, très, très réalistes, les tableaux des salons à l'époque. Et alors là, les thèmes sont très différents. On est dans de la peinture biblique, mythologique. Alors, on voit le Christ, il y a Saint-Laurent martyr, Homère et son guide. Et là, le trait, il est très, très net. Les couleurs sont tranchées. Si on prend, par exemple, ce moine sculpté d'Édouard Dantan, enfin, ce moine sculptant, pardon, un Christ en bois, là, la peinture, on a presque l'impression que c'est une photographie. On voit le moine dans son atelier, il y a des outils, des crucifix. Comment est-ce que vous nous la décririez, cette peinture ?
Mais c'est vrai que c'est une peinture effectivement qui se veut très très réaliste, presque photographique, qui est séduisante aussi. Hein. Nous on l'a choisi effectivement ce qu'on voulait montrer en exposant ces peintures de salon. C'était pas de faire de dire voilà il y a ceux qui peignent mal ou il y a les méchants et puis il y a les impressionnistes qui ont eu raison. C'était aussi pour faire comprendre le choc qu'a pu être l'impressionnisme et puis le goût un petit peu de l'époque et puis aussi ces artistes dits académiques qui essaient tous de trouver un petit peu leur voie. Et donc là, Dantan, il se dit qu'il veut faire de la peinture religieuse, mais qu'au lieu de peindre une scène religieuse, il va peindre un moine qui lui-même sculpte un Christ. Et effectivement, on sent qu'il a grand plaisir à peindre cet atelier un peu fantasmé, de façon très très détaillée, très précise. Et c'est ça en fait que le public aime à l'époque souvent, c'est que ça soit détaillé et que ça raconte une histoire. Et c'est ce que ne font pas les impressionnistes bien souvent.
Oui, parce que justement, quand j'ai visité l'exposition pour la visite presse, comme on dit, il y avait un confrère qui était là et qui me disait « mais c'était pas la même fonction, eux, ils racontaient des histoires ». C'est vrai, parce que qu'est-ce qui fait du coup que les impressionnistes racontaient des histoires, ou alors ce type d'histoire, ça les intéresse pas. Parce qu'on a vraiment l'impression que les autres sont dans la mimésis, la reproduction fidèle de la réalité. La copie de la réalité, ça leur plaît pas, ils sont plus dans une peinture du sentiment peut-être.
Mais c'est vrai que l'impressionnisme, en fait, il met vraiment l'artiste impressionniste, il met vraiment sa propre subjectivité, son ressenti, comme on dirait aujourd'hui, vraiment au cœur de son art. Et ce terme d'impression dit bien ce que c'est. En fait, c'est mon impression comme artiste qui compte, et je vais essayer de traduire mon impression sur la toile. Alors que là, Édouard Dantan, il cherche pas à traduire une impression, il cherche à restituer de façon réaliste quelque chose qui n'existe, qui n'a peut-être jamais existé, hein, ce moine du Moyen-Âge en train de sculpter son Christ.
Oui, c'est vrai.
Il ne l'a jamais vu. Il l'invente. Mais il a lu des livres d'histoire. C'est le moment où il y a beaucoup où l'histoire, les sciences, en fait, nourrissent tous ces peintres d'histoire. Et puis, je dirais aussi, donc, il y a cette question d'impression, de subjectivité. Et puis, les impressionnistes, précisément, ce sont des peintres de la vie moderne, surtout à ce moment-là, dans les années 1870. Pour eux, l'art, c'est pas tellement, le but de l'art, c'est pas tellement de recréer un passé fantasmé, c'est de prendre à bras le corps, si je puis dire, le monde qui les entoure. C'est vraiment de sortir de l'atelier, de regarder ce qui se passe et de donner sa dignité, si je puis dire, à la vie de leurs contemporains.
Oui, alors donc de redescendre en fait un petit peu sur terre d'une certaine façon. Extrait de Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel dans VMDN. C'est peut-être le compositeur le plus impressionniste du 19e siècle, qui a Debussy aussi. Sylvie Patry, parmi les impressionnistes qui entreront dans l'histoire, puisque sur ces 31 peintres, il y en a 7 surtout, il y a une seule femme, Berthe Morisot, et pas des moindres. Et alors vous donnez à découvrir au musée d'Orsay nombreux tableaux d'elle, dont le Berceau. Alors c'est un pastel, c'est un portrait de sa sœur Edma, qu'elle adorait, qui veille sur sa fille Blanche. Donc Blanche, c'est un petit bébé, nourrisson dans son berceau. Et c'est comme si on avait deux couleurs, en fait, et deux espaces. D'un côté, le blanc du berceau, justement, avec ses voilages. Et puis, courbé au-dessus, la maman, donc la sœur de Berthe Morisot, qui, elle, est vêtue de couleurs plutôt sombres. Alors, la toile, elle est attendrissante. Et en même temps, comme dans le tableau de Renoir tout à l'heure, on a une impression d'une profonde mélancolie. Enfin, en tout cas, ce que ça m'inspire.
Oui, c'est un tableau qui est un tableau assez ambigu, je suis d'accord avec vous. À la fois, effectivement, il célèbre cet amour maternel, cette sollicitude de la mère pour son enfant. Elle regarde sa fille qui est en train de dormir. Et le geste de la mère et de la fille se répondent, puisque Edma, donc la sœur de Berthe Morisot, est accoudée, elle est penchée au-dessus du berceau. Et la petite fille a aussi le bras replié sur sa tête, enfin vers sa tête. Donc en fait, on a ce jeu de regard, mais ce geste, il n'a pas le même sens dans l'un et l'autre cas. Et cette position comme ça, de profil, avec la main posée la tête posée sur la main, pardon, le coude replié, c'est une position qui est très connue dans l'histoire de l'art, qui fait référence à une gravure d'un artiste allemand qui s'appelle Dürer. Et cette gravure représente une femme accoudée comme ça, et ça s'appelle la mélancolie. Et moi, je pense que Berthe Morisot ne pouvait pas ne pas penser à cette gravure. Donc déjà, la pose évoque cette position de la mélancolie, et puis son regard aussi, qui est à la fois tourné vers son enfant, mais qui est un petit peu rêveur, un petit peu absent. Elle est à la fois avec nous, avec son enfant, et puis un petit peu loin, un peu dans ses pensées. Et c'est un tableau que je trouve intéressant de regarder avec nos yeux d'aujourd'hui, parce qu'en fait c'est une situation qui est très particulière. C'est Berthe Morisot qui, à ce moment-là, elle a une trentaine d'années. Elle expose pour la première fois avec ses peintres impressionnistes. C'est très audacieux de sa part, hein. C'est une femme de la grande bourgeoisie. À l'époque, une femme peut faire de l'art, mais à titre amateur. Donc là, vous imaginez, elle en fait de façon publique, professionnelle, et en plus, dans cette entreprise comme ça, très audacieuse. On ne sait pas trop où ça va mener, hein, ces expositions impressionnistes. Elle expose à côté d'hommes qui sont des anciens communards, qui sont parfois certains d'extrême gauche. Enfin bon, c'est quand même même très très transgressif comme choix, très audacieux. Et à ce moment-là, Berthe Morisot n'est pas encore mariée. Elle a une pression très forte de sa famille. Ça se fait pas.
Qui veut qu'elle se marie.
Voilà, qui veut qu'elle se marie. Et elle, elle se pose beaucoup de questions. Parce que pour une femme, se marier, fonder une famille, c'est en général renoncer à sa carrière d'artiste. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Edma, que l'on voit ici, avec sa petite fille.
Edma, qui peignait.
Elle peignait. Elle a commencé au salon, on en parlait tout à l'heure. Les deux sœurs ont commencé ensemble. Elles ont toutes les deux été remarquées au salon. Et Edma se marie. Et dès lors qu'elle se marie, elle abandonne toute carrière artistique. Donc je pense aussi que ce tableau, à travers la figure de sa sœur, c'est aussi une réflexion sur ses choix que doivent faire les femmes à l'époque. Et Berthe Morisot, elle aura, j'allais dire, beaucoup de chance. En fait, non, elle sera très déterminée, elle fera les bons choix. Elle va épouser un homme qui est Eugène Manet, qui est le frère du peintre Manet. Et lui, il va non seulement accepter qu'elle continue de peindre et d'exposer, mais il va la soutenir. Et lui-même, qui était peintre amateur, il va arrêter de peindre. Et il va s'occuper
pour
de l'œuvre de sa femme. Voilà, donc ça, c'est plutôt une belle histoire qui finit bien.
Ah oui, c'est plutôt plaisant à entendre. Et puis Berthe Morisot, donc, ce qu'elle va peindre aussi beaucoup, c'est l'intimité. Elle va peindre aussi sa fille, Julie, énormément. On voit qu'il y a aussi, avec l'impressionnisme, une nouveauté, une innovation, si je puis dire, dans les thèmes aussi de la peinture. Et bien sûr, au cœur de tout ça, il y a la modernité. Paris s'industrialise, vous parliez tout à l'heure de la construction des grands boulevards, c'est toute l'époque haussmannienne. Et ça, on le retrouve dans énormément de peintures dans l'exposition au musée d'Orsay. Alors Claude Monet peint le boulevard des Capucines, ses calèches, ses passants. Il y a des petites taches brunes comme ça dans une lumière blanche un peu brumeuse. Caillebotte va s'emparer d'une rue de Paris, mais très haut de par ses toits. Puis aussi des lampadaires. Pourquoi est-ce qu'ils aiment bien peindre la ville, ces peintres? Qu'est-ce qui les exalte dedans? Il y a une fascination?
Alors il y a très certainement, je pense, une fascination effectivement pour Paris, qui à ce moment-là devient la grande capitale moderne qu'on connaît aujourd'hui. Hein, le Paris dans lequel on vit encore aujourd'hui a été très très largement remodelé quelques années avant, et puis du temps des impressionnistes. Donc comme ils veulent peindre ce monde en pleine évolution, en plein bouleversement, évidemment ce thème comme ça du nouveau Paris, les happes les intéressent surtout dans les années 1870. Ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement surtout Monet, Caillebotte, et puis bon, Manet, il n'a jamais participé aux expositions impressionnistes, mais il était quand même très très proche du groupe. C'est surtout ces trois artistes-là qui vont exalter en quelque sorte ce Paris moderne. Et Monet va aller jusqu'à peindre des gares, comme Manet aussi, thème qui n'était pas tout à fait admis dans la peinture de l'époque, hein, qui relevait plutôt de la presse, de l'illustration. Donc il y a cette fascination, il y a un certain optimisme. Moi, je trouve qu'il y a une vision très optimiste de cette modernité. Mais il y en a d'autres, comme Renoir, qui sont plutôt attachés au Paris d'avant, qui n'aimeront jamais le Paris d'Haussmann et qui sont attachés à un Paris un peu fantasmé de l'Ancien Régime ou alors à Montmartre.
Mmh. Mais alors justement, vous parliez de Monet à l'instant. Un des joyaux de l'exposition, un des incontournables, je pense que les gens qui aiment l'impressionnisme rêvaient de le voir et vous le savez très bien d'organiser ça parce qu'on est seul avec ce tableau. Alors il y a près de 200 ou plus de 200 œuvres, je ne me souviens pas. Donc il faut s'imaginer qu'il y a beaucoup de monde au musée d'Orsay, qu'il y a beaucoup de toiles, de dessins, de sculptures. Et d'un seul coup, on se retrouve en tête à tête avec Impression Soleil Levant. Alors, c'est une peinture à l'huile très célèbre de Monet qui va donner son nom à l'impressionnisme. Impression Soleil Levant, au départ d'ailleurs, c'est une critique même, parce que c'est un critique du salon qui dit « Mais c'est quoi ça ?» Et Monet répond « Impression, ah oui c'est ça, c'est de l'impression. » Et alors justement, vous parliez des villes, là c'est une vue du port du Havre où a grandi Monet. Alors il y a beaucoup d'eau, les teintes sont très froides, on a un soleil orangé flamboyant, au loin on voit des grues, donc pour les constructions, hein, pas les oiseaux, une sensation de brume, de brouillard, et on a presque l'impression d'entendre le bruit des barques qui fendent l'eau en contrebas de cet hôtel depuis lequel Monet est en train de peindre. Alors, on imagine, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il peint rapidement, puisque c'est quand même la course avec le soleil, avec la lumière. En quoi est-ce que cette toile, elle est révolutionnaire, Sylvie Patry?
Alors, elle est révolutionnaire, effectivement, parce qu'elle est très simplifiée, elle est très schématique. Bon, vous l'avez dit, c'est un sujet qui est très, très moderne. Il ne choisit pas du tout un port. Peindre des ports, c'est vraiment une grande tradition de la peinture, hein, donc ce n'est pas ça ce qui est nouveau. Mais en général, quand on peint des ports, on choisit des ports un petit peu pittoresques. Là, Monet, il peint un port industriel, enfin c'est l'avant-port.
Oui, mais les mains dans le cambouis, si on pourrait dire.
Exactement, c'est vraiment c'est le moment où le Havre est un des plus grands ports au monde, très actif. Donc, il donne en fait une poésie à des sites. À des sites industriels qu'on jugeait sans intérêt. On peut imaginer, hein, libre à nous aujourd'hui d'imaginer l'équivalent et de voir ce qu'un peintre en ferait. Donc ça c'est révolutionnaire. Et puis ce tableau, il est très très esquissé. C'est vraiment on a des zigzags de peinture, on voit parfois la toile, il a pas voulu recouvrir comme ça, il a vraiment voulu capter l'instant. On sait qu'il l'a fait en plusieurs séances, plusieurs fois.
À tout de même.
Parce qu'en fait, il y a des couleurs sur d'autres couleurs, et s'il avait fait tout ça en une seule séance, les couleurs n'auraient pas été sèches et ce serait un peu mélangé. Donc quand elles ne se mélangent pas, on sait, c'est un indice, on essaie, hein, on est un peu des détectives parfois, parce que évidemment ça n'était pas en 1872, donc on n'était pas à côté des peintres, donc on n'a pas tous leurs secrets. Et ce qui est très, ce qui est révolutionnaire, voilà, c'est ce geste, cette présence du geste. En fait, c'est des tableaux, on appelait ça à l'époque des esquisses, des ébauches. Les peintres en faisaient beaucoup, mais ils en faisaient comme des brouillons. Et puis, il gardait ça dans l'atelier. Et dans l'atelier, on faisait le grand tableau composé à partir de tous ces brouillons. Alors que là, Monet, ce qui est révolutionnaire, c'est qu'il le signe, il le date, il l'expose et il le vend.
Avec singularité, comme les Magnificos d'Arthur Ashe.
Les nuages s'amoncellent. La tempête se prépare.
Le ciel et toi, la lune masquée, on s'avance dans l'obscurité.
Je n'ai pas peur si tu es là. Le vent nous porte, on s'en va.
Magnifico d'Arthur Ashe et M dans VMDN, un morceau à retrouver sur la playlist de RFI. Alors à l'image des peintres qui s'ébattent dans la campagne en France, cet anniversaire de l'impressionnisme, Sylvie Patry, c'est aussi l'opportunité pour le musée d'Orsay donc d'accueillir des toiles, mais d'en faire partir aussi dans toute la France. Vous accueillez aussi des tableaux qui d'habitude sont à la National Gallery, normalement, au musée d'Orsay, c'est ça? Desquels s'agit-il?
Alors, il y a beaucoup de prêts qui viennent des musées étrangers, donc à la National Gallery de Washington, avec qui on a préparé l'exposition, il y a huit œuvres qui ont été prêtées, donc des tableaux de Manet, des tableaux des gravures aussi, des œuvres sur papier. Et on a reçu aussi des prêts d'autres musées américains, de musées européens et aussi de collectionneurs privés. Parce qu'en fait, il y a encore des collectionneurs qui ont la chance de vivre au quotidien avec ces œuvres.
Ces tableaux, oui, c'est fou. Et alors là, c'est à l'ancienne directrice des collections du musée d'Orsay que je m'adresse. Quelle est la réception justement de l'impressionnisme à l'international, Sylvie Patry?
Alors,
parce qu'en France, on adore l'impressionnisme, mais à l'étranger, qu'en est-il ?
Eh ben, à l'étranger aussi, notamment aux États-Unis. Alors ça, c'est une vieille histoire, enfin c'est une longue histoire, parce que donc les impressionnistes. En 1874, par exemple, au moment où ils organisent cette première exposition, ils ont un cercle d'amateurs un petit peu restreint. Mm-hmm. Ils n'ont pas beaucoup de succès. Et d'ailleurs, sur les 200 œuvres qui sont dans l'exposition, il n'y en a que 4 qui sont vendues. Donc, on peut dire que commercialement, c'est un flop. Ouais. Mais au fur et à mesure, donc, ces peintres vont réussir à se faire connaître. Et ils ont notamment un grand marchand qui s'appelle Paul Durand-Ruel, qui va avoir une idée de génie. C'est-à-dire qu'il va se dire, d'autres marchands aussi réfléchissent de cette façon, on est au moment où vous avez parlé d'industrialisation, d'urbanisation, mais c'est aussi un moment de globalisation, d'internationalisation, de multiple développement des transports et d'un marché international. Et donc ce marchand, Paul Durand-Ruel, va se dire, cette peinture, elle peine à être acceptée en France, où peut-être les gens ont déjà des collections, des goûts peut-être un peu plus conventionnels. Essayons les États-Unis, où il y a beaucoup de nouvelles fortunes, et des gens qui n'ont pas hérité de collection. Et donc, il va ouvrir une galerie à New York dans les années 1880. Et à partir de là, à partir de la fin du 19e siècle, il va être de bon ton aux États-Unis, à Chicago, à Philadelphie, à New York, d'avoir des collections impressionnistes. Donc, il va y avoir vraiment un amour de l'impressionnisme qui va se développer aux États-Unis. Et ces collectionneurs, ils vont souvent donner leurs collections dans des musées qui vont se créer aux États-Unis. Donc, très populaire aux États-Unis. Il y a un autre pays aussi qui aime beaucoup l'impressionnisme. C'est le Japon.
Et alors pourquoi ?
Alors, il y a aussi de grandes collections. Et puis peut-être parce que c'est vrai que l'impressionnisme, les impressionnistes ont beaucoup peint Paris, ont beaucoup peint la Normandie, et ils sont devenus une image de la France. Et bon, il y a peut-être ces relations très privilégiées entre la France et le Japon. Et puis les impressionnistes, ils se sont beaucoup inspirés de l'art japonais et notamment des estampes japonaises. Et on parlait d'impression Soleil Levant tout à l'heure. Mm-hmm. Donc ce disque orange que vous avez décrit, qui est une tache de couleur très simple, c'est vraiment juste un rond pour un cercle pour représenter ce soleil qui se lève. C'est en fait quelque chose qui est très inspiré des estampes, des gravures japonaises du 19e siècle qui ont commencé à circuler en Europe et à Paris au moment des impressionnistes. Et ils vont être très impressionnés, c'est le cas de le dire, par ces gravures qui ont des couleurs très vives, très pures et qui représentent aussi la vie moderne du Japon.
Et puis alors, dans l'extrême contemporain de l'époque dans laquelle nous sommes, il y a aussi dans cette exposition au musée d'Orsay une expérience en réalité virtuelle. Alors je l'ai faite, on est équipé de casques, de lunettes et on plonge dans cette soirée du 15 avril 1874 avec Rose, une jeune fille vêtue de bleu qui ressemble beaucoup à la parisienne d'Auguste Renoir. Donc on visite un atelier, les toits de Paris, une guinguette, on va sur le quai d'une gare. C'est très réaliste, c'est un peu perturbant aussi. On voit les tableaux, on les voit un peu moins bien pour certains, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Pourquoi est-ce que vous avez voulu jouer à la fois sur le passé qui est toujours présent et sur le futur, on peut le dire quand même?
Alors ça, c'était un projet qui nous tenait beaucoup à cœur avec Anne Robbins, qui est conservatrice au musée d'Orsay et commissaire avec moi de l'exposition, je dirais, classique, de Beaux-Arts, avec les tableaux, les peintures, etc. On a rencontré en fait un producteur, une maison de production, Gédéon, et puis ensuite des spécialistes des expéditions immersives, émissives. Ils sont venus nous voir en disant, voilà, il va y avoir les 150 ans de l'impressionnisme, et on a fait des recherches. Et on est en capacité de vous proposer de reconstituer cet atelier, donc chez Nadar, où a eu lieu cette première exposition? Parce que la façade existe encore, pour ceux qui viendront à Paris, vous verrez la façade, mais l'intérieur a complètement été changé. Donc on ne sait plus trop comment ça s'organiser. Et eux, avec les moyens actuels, des recherches en archives et ensuite une capacité à recréer des espaces, ils nous ont proposé ça. Et puis après, c'est allé plus loin, on a eu envie de raconter une histoire. Et finalement, à travers cette expédition, ce voyage immersif, de rencontrer les peintres, de plonger dans leurs œuvres et de faire aussi un voyage dans le temps, puisque on oscille entre la fin des années 1860 et les années 1870, et on se plonge vraiment au cœur d'une époque et d'une ambiance. Et ce personnage de Rose, qui est un personnage fictif, mais qui est très inspiré de cette jeune femme peinte par Renoir qu'on voit ici dans l'exposition, elle nous guide, elle nous explique, et c'est aussi une jeune femme qui veut devenir écrivain.
Oui.
Donc on tenait beaucoup aussi à cette place des femmes et à cette difficulté parfois qu'avaient les femmes à l'époque pour se faire un chemin.
Mais alors 150 ans, c'est un âge vénérable, et pourtant l'intérêt pour l'impressionnisme n'a jamais, en France comme dans le monde entier, cessé. Comment expliquez-vous ce phénomène ? En quoi cette peinture, elle reste proche de nous, pour finir, Sylvie Patry ?
Alors peut-être parce que déjà c'est une peinture, les sujets sont accessibles, on n'a pas besoin effectivement de connaître des événements historiques, etc. C'est une peinture qui à mon sens reste très vivante, cette impression d'une impression. C'est une peinture qui reste très fraîche. Les impressionnistes ont une façon aussi toujours très poétique de décrire la réalité. Donc c'est une peinture qui est souvent joyeuse, lumineuse et colorée, et ça fait pas de mal par les temps qui
courent. C'est vrai.
Et puis c'est beau et c'est libre aussi. Peut-être que c'est cette liberté qu'aime le public aujourd'hui.
Cette liberté, chérie. Merci beaucoup, Sylvie Patry, d'avoir été avec nous pour nous parler de cette merveilleuse et très riche exposition. Paris 1874, inventer l'impressionnisme, qui ouvre aujourd'hui et que l'on pourra découvrir au musée d'Orsay jusqu'au 14 juillet, et puis qui continuera pour ce qui concerne l'exposition virtuelle jusqu'au 10 août.
Jusqu'au 11 août. Pour le public des Jeux Olympiques.
Voilà, donc on gagne même une journée. Je vous propose qu'on se quitte en musique avec Aya Nakamura qui chante Aipé.
Je crois que je ne t'aime plus. Je vais changer de vie, de numéro. Ce que je devais voir, bah je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vue. Je demande ce qui m'échappe. Tu me dis que je vais le seul. C'est là qu'entre nous t'as déclaré la guerre. Telle une sirène, tous les beaux je racolais.
Il a la digue facile, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Hit machine, je suis une hit machine. Pas une facile, je me donne 10 sur 10.
Je suis bien hyper, 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 hyper. T'es dans l'ombre, t'as ça y est. Puis hyper, hyper, hyper. Puis il aimait trop les bêtises, faisait trop de bêtises. Puis il aimait trop les bêtises, faisait trop de bêtises.
Moi je voulais nous deux, mais tu vis pour les caméras. Tout ce cinéma, c'était pour les caméras. Je voulais laver, 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 etc. Et dans toutes les bouches, j'ai entendu le commérage. Je sais que j'étais. Toi, tu te doutes de quoi, je sais que j'étais. Et pour les boubous comme toi, fini sentiment, fini tout ça. Les gars, je me suis mise en bombe en pétard. Mais du coup, le boug est fâché. J'étais dedans, moi j'ai lâché. Moi j'ai lâché tout ça. Je suis bien hypé.
Hype d'Aya Nakamura, un morceau à retrouver dans la playlist de RFI. VMDN, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, vous retrouverez Jean-François Cadet à ce micro qui recevra Philippe Cohen-Solal pour 75-010, un nouvel album qu'il a réalisé avec les 70 communautés de son quartier, le 10e arrondissement de Paris. Merci à Pierre Plantier qui a réalisé cette émission, à Baptiste Antoine qui l'a préparée. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RFI et vous m'en direz des nouvelles.